relation amour sur laquelle insistent naturellement tous les auteurs que j'ai cités, mais bien entendu, on pourrait évoquer, j'aimerais évoquer par exemple simplement un ouvrage que vous connaissez sans doute, un ouvrage de Vaida, L'amour de Dieu dans la philosophie juive du Moyen-Âge, ou bien son autre ouvrage, La philosophie juive du Moyen-Âge, ou bien l'ouvrage de Léon Lébreu, Les dialogues d'amour. Autrement dit, c'est une mystification de croire que l'amour dans sa dimension ontologique ou dans sa dimension métaphysique, que l'amour est un apport de la chrétienté. C'est une mystification. Il y a une réflexion et une expérience théologique, mystique, philosophique de l'amour dans la pensée juive, que cette pensée soit celle des textes anciens, ou bien celle du Talmud, ou bien celle des philosophes eux-mêmes. Enfin, on pense aussi qu'il y aura, cela recouvre tout ce qu'on a dit, et c'est presque la grande signification de tout ce que nous avons dit, l'avènement du nouveau. Le messianisme, c'est non seulement l'attente de la délivrance, mais la certitude de l'avènement de la nouveauté. Une nouvelle ère, mais parce qu'elle est nouvelle, cette ère, parce qu'il y aura une nouvelle vie. Nouvelle vie, nouvelle relation entre les nations, nouvelle relation entre les nations et Dieu, nouvelle structure de l'individu humain. Le messianisme est plus qu'une promesse, il est une réflexion structurée sur l'avènement de la nouveauté pour l'humanité. Et il faut bien dire que tout cela se trouve dans les textes. Tout cela se trouve dans les textes, textes que bien sûr il y a à ramasser d'une certaine façon, à lire d'une certaine façon. Nous allons maintenant résumer tout cela par ce que j'appellerais une conclusion partielle. Première conclusion partielle, premier résumé, si vous voulez. Premier résultat. Bien. Qu'est-ce que le messianisme ? Quelle est la signification philosophique ou la signification dans le messianisme traditionnel ? Premièrement, c'est l'annonce et l'attente d'un mouvement sacral. L'annonce, l'attente d'un cheminement sacré. Cheminement sacré qui conduira à une sorte de retour sur soi ou retour à la perfection, mais en même temps avènement de la nouveauté. Attente et annonce d'un cheminement. Deuxièmement, le messianisme met en évidence la fécondité et le dépassement des conflits et du conflit dialectique catastrophe-délivrance. Le messianisme met en évidence l'importance de cette dialectique en s'appuyant fortement sur le travail pour et la croyance en la délivrance qui vient après la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une lecture positive du malheur. Troisièmement, le messianisme et l'espérance en une transmutation radicale. Transmutation radicale de l'esprit et de la vie. En ce que c'est Nair qui parle, il y aura, c'est l'affirmation, l'espérance en un dépassement lumineux. Les images de lumière sont fréquentes, sont essentielles, sont fondamentales, en effet, dans tous ces textes, et on pourrait dire que l'ère messianique, c'est l'ère de la lumière. Vrai. Quatrièmement, on pourrait dire qu'il y a, dans le messianisme, bien entendu, une sacralisation à la fois tragique et optimiste, en prenant ces termes au sérieux, c'est-à-dire en les nourrissant d'une richesse de réflexion. Il y a une sacralisation tragique et optimiste de l'histoire d'Israël. Je veux dire que tous les Juifs savent, enfin pas tous les Juifs, nous disons, nous qui sommes ici, nous savons que le messianisme n'est pas séparable de l'histoire du peuple juif. Le messianisme n'est pas la description d'un mouvement, d'une attente et d'une sacralisation qui concernerait seulement des âmes où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Le messianisme concerne l'histoire du peuple juif. Et ensuite, bien sûr, les relations du peuple juif avec toutes les nations, avec le monde, avec l'univers, bien entendu. Mais il n'est pas possible de parler de messianisme si l'on fait abstraction de l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire tout simplement de la construction d'une nation en un certain lieu du monde, de sa dispersion et de son rassemblement. Si on ne fait pas état de ces trois termes, on trahit les textes, on trahit la définition du messianisme. Mais ce qui est remarquable, c'est que on n'a pas le droit d'appauvrir d'autre part le messianisme en disant « il n'est que cette histoire sociale des Juifs ». Fondation d'un État, dispersion, retour à la maison, et puis après c'est fini, on fait le café, et puis voilà. Non, tout reste à faire. Tout reste à faire une fois qu'on est rentré en Israël, qu'on est rentré chez nous. Tout reste à faire, mais on ne peut pas commencer ce tout qu'il y a à faire sans être rentré en Israël. Sans avoir rendu, disons, au peuple juif un État. Enfin, on peut résumer tout ça avec une expression tout à fait remarquable que j'ai également rencontrée par hasard. On peut dire que le messianisme est la prise de conscience de la construction progressive de ce que le Maharal de Prague appelle, dans la traduction de Neher et l'ouvrage de Neher sur le Maharal de Prague, le Maharal de Prague parle comme moi. Il parle de l'homme juif. Jadis, il y a bien longtemps, j'ai écrit un ouvrage sur la condition réflexive de l'homme juif. Je ne connaissais pas le Maharal de Prague, évidemment. L'ouvrage n'était pas publié sur le Maharal de Prague. Je veux dire que le concept d'homme juif est le concept qui rassemble la singularité et l'universalité dont nous sommes porteurs. Mais nous ne pouvons réaliser tout cela qu'inspirés par le messianisme. Enfin, et c'est le dernier point, en tout cela, il y a, et on le passe trop souvent sous silence, vous pouvez très bien imaginer qu'une description schématique du messianisme s'arrête ici. Nous avons déjà dit, grâce à tous les auteurs qui ont travaillé, nous avons déjà dit 1000 choses sur le messianisme, beaucoup de choses. On a oublié la chose essentielle, on a oublié la joie et l'allégresse. Ce sont les termes les plus fréquents des Écritures. Parce que ce n'est pas un événement, le retour en Israël par exemple, la réintégration dans l'indépendance n'est pas un événement purement matériel, n'est pas un événement historico-matériel ou pratico-inerte. C'est un événement qui est attendu par le plus profond de l'âme des Juifs et qui, lorsqu'il se réalise, fait que l'ensemble du peuple juif entre dans la joie et l'allégresse. C'est quelque chose d'existentiel, la réinstauration de l'État juif dans sa liberté. Il y a joie et allégresse. Au fond, le noyau central du messianisme, c'est la joie. Et la joie, non pas comme attente et promesse pendant qu'on est immobile, mais avec toute une interprétation de l'histoire, toute une interprétation de aussi notre action et toute une exigence sur notre action. Mais tout cela motivé par la visée, l'expérience ancienne. D'abord l'expérience ancienne, puis la privation, puis la visée de la joie. C'est cela le messianisme. Mais est-ce que nous n'avons pas là à notre disposition suffisamment d'indications pour bien conduire notre existence? Oui, pourquoi pas? On peut. Avec tout ce que nous venons de dire, repris naturellement par une lecture approfondie, par des études très longues, on peut tout à fait, d'une part, structurer un peuple, justifier une nation, orienter une vie individuelle. On peut. Mais que pourrait dire maintenant quand même le philosophe? On peut poser aussi quelques questions. On peut aussi poser quelques questions, parce que la délivrance, la rédemption, c'est le fait de sortir, et maintenant je vais le prendre métaphoriquement, étant donné, étant entendu d'abord que nous avons bien dit que ça a une signification très précise et matérielle, historico-existentielle. Pas matérielle, mais historique, réelle, existentielle, à savoir l'expression « sortir de la maison de servitude ». Ça a la signification que nous avons dite. Mais aussi, une fois ça reconnu, on peut lui donner aussi un sens métaphorique. Et le métaphorique, c'est ça, sortir de la servitude, c'est aussi sortir de l'acceptation sans critique. Donc nous pouvons poser des questions, en ça nous sommes très juifs, les juifs sont les inventeurs de la démocratie dans le monde, et on peut le dire modestement, les inventeurs de la démocratie, du dialogue, de pas mal de choses, comme vous savez. Donc on peut dialoguer, puis on peut se poser quelques questions. Je peux par exemple me demander si je ne puis pas rassembler un certain nombre d'éléments sous une rubrique qui pour moi, mais je ne sais pas si je l'imprimerais comme cela, si je la ferais imprimer comme ça, si j'avais à l'imprimer, une rubrique que j'appellerais « Le contestable absolument ». L'absolument contestable. Contestable par qui ? De quel droit ? C'est modestement que je vais nous demander si on ne peut pas poser quelques questions. Où et sur quoi ? Eh bien, d'abord, on peut s'interroger sur le caractère sacré du fondement qui est donné à tout ce messianisme. Quel est ce fondement ? Ce fondement est double et un. Double et un parce qu'il est d'abord les Écritures et ensuite ce que disent les Écritures. Et ce que les Écritures se réfèrent à la sacralité de l'absolu, qui n'est pas nommable, mais qu'on peut désigner par des noms commodes, Adonai, etc. Mais l'absolu lui-même, il n'est pas nommable, surtout pas par moi qui ne sais pas la langue, et puis même ceux qui savent la langue ne savent pas non plus. Donc, le fondement, c'est ce qui n'est pas nommable, et d'autre part, cela qui n'est pas nommable, son existence ne nous est connue que par un texte. Le double fondement, c'est un texte et l'innommable, c'est-à-dire la sacralité, la double sacralité du texte et de l'innommable. Alors, c'est ici que je pose la question. Est-ce un fondement suffisant qu'une sacralité donnée au départ ? Qu'est-ce que le sacré ? Est-ce que le sacré et la sainteté telle que peu à peu on finit par l'entendre dans les communautés n'est pas en réalité le résultat d'une longue histoire, d'une longue élaboration, strictement humaine ? Le sacré étant à l'origine tout simplement la grandeur terrifiante des puissants. Ou la grandeur terrifiante des puissances. La grandeur fascinante et terrifiante des puissances, c'est-à-dire Elohim, mais ces puissances sont sacrées parce qu'elles sont terrifiantes et attachantes et fascinantes. Je puis, moi, me désoler du fait que, si ce sacré s'effondrait à mes yeux, devrais-je renoncer au mouvement vers la joie ? Si ce sacré s'effondrait, si ce sacré n'était plus pour moi caution, roc, base suffisante, est-ce que je devrais renoncer à tout ce qu'il a dit qu'il fondait ? Est-ce que je devrais renoncer à l'espoir, au travail, à la communauté, à l'avenir, à la joie, à l'allégresse ? C'est une question. Et ici, le sacré, c'est aussi quelque chose d'étrange. Le sacré, c'est une attitude de lecture. Car l'innommable se trouve dans les textes. Mais les textes n'existent pas si je ne les lis pas. Donc le sacré, en réalité, si on réfléchit bien, il est chez celui qui lit. Mais c'est bouleversant, c'est étrange. Voici que le fondement de toute la sacralité du monde, c'est le lecteur. C'est réjouissant en un sens, mais c'est un peu effrayant aussi. C'est Dieu qui lit la Torah quand la Torah est lue par un juif. Deuxième remarque. Si je réfléchissais maintenant, en me référant à ces textes, si je me référais maintenant au but, aux fins véritables de la délivrance. Quels sont les buts de la délivrance ? Nous avons vu qu'elle se situe, cette délivrance, elle est à la fois l'étoffe, la nourriture du dialogue, Dieu-homme, et puis l'avenir, de ce dialogue. Et présenté comme cela, on ne voit pas où il y a problème. Comment ne pas attendre la délivrance et mieux faire comme font les Juifs, y travailler. Pourquoi pas? Mais si, maintenant on peut être un tout petit peu plus exigeant, si on lit les textes, on s'aperçoit d'une chose, cette délivrance est conditionnée. Et ici nous allons retrouver la dialectique catastrophe-délivrance, catastrophe-réjouissance, destruction de Jérusalem, montée à Jérusalem. Jérusalem sera détruite. Tous les prophètes disent ça. Ils annoncent la justice, bien sûr. Ils clament leur désir de justice, d'abord pour le peuple juif, ensuite pour l'humanité, c'est bien vrai. Mais d'abord, ce qu'ils disent, c'est Jérusalem sera détruite, Israël sera détruit, Juda sera détruit, que Juda ne bouge pas et qu'il attende l'arrivée des Assyriens, c'est Jérémie. Il n'y a pas à s'allier avec Israël, il n'y a pas à s'allier avec... parce que les Assyriens sont trop forts, on ne bouge pas, et de toute façon, ça sera détruit. Israël sera détruit, et peut-être même Juda, d'ailleurs, ensuite, plus tard, Jérusalem a été détruite, le temple. Alors, comment continue le prophète? Le prophète dit ceci, « Tout cela n'est pas un hasard, tout cela est le fruit de votre comportement impie, le fruit, c'est-à-dire la punition. » Le messianisme se nourrit d'une éthique du châtiment et de la récompense. Je vais citer une petite phrase de Spinoza qui est celui qui est le philosophe qui souhaite construire une éthique sans morale, une éthique sans morale, oui, une éthique sans sanction ni obligation. Une vraie éthique indépendante d'amour, de justice, de joie. Et il dit dans un petit scoli, quelque part, une fois qu'il a critiqué le remords, mais en fait, il songe au repentir chrétien. Il le critique, il dit le remords est une double faiblesse, donc il est hostile au remords, hostile à la pitié. Puis il ajoute. Mais si les hommes ne sont pas capables spontanément de se conduire justement, nous préférons de loin... Si les hommes ne sont pas capables d'être philosophes et de se conduire avec justice, librement, nous préférons de loin quelqu'un qui utiliserait comme morale et comme guide le remords et la pitié. Parce que quelqu'un qui, n'ayant pas de philosophie, mais qui d'autre part n'aurait pas non plus ses sentiments, serait proprement, dit Spinoza, c'est son terme, inhumain. Ne serait pas un être humain. Donc, Spinoza est tout à fait d'accord pour que, au premier niveau, on fasse état de ses vertus. Mais ces vertus qui font partie d'une morale, de la punition et de la récompense. Mais pour le philosophe, ça pose question. Or, ce que je remarque dans les textes des prophètes, c'est que la délivrance est toujours une récompense et les catastrophes sont toujours des punitions. D'une part. Et parfois, on hésite un peu à bien comprendre ce qui se passe, parce que les catastrophes, d'une part annoncées et d'autre part effectivement réalisées, sont terribles, comme vous savez. Les destructions de Jérusalem par les Assyriens ou par les Chaldéens, les Babyloniens, les destructions du peuple juif, les massacres, les déportations, sont terribles, effrayantes. Et tout cela est dû seulement au fait que tel ou tel juif n'aurait pas respecté tout à fait les rites, ou n'aurait pas été tout à fait en leur cœur amoureux de Dieu, ou n'aurait pas connu tout à fait les exigences de la Torah, c'est puni de cette façon. Ça pose au moins question. Alors, allons plus loin. Non seulement il y a une sorte de disproportion entre la punition et la faute, mais d'autre part, la délivrance est l'un des éléments d'une morale, comme ça, qui pose question, de la sanction et de la menace et de la récompense. Mais allons plus loin. Non seulement Le messianisme s'appuie sur ces conditions, la délivrance s'appuie sur ces conditions, elle est conditionnelle. Il faudra se conduire d'une certaine façon pour être délivré. Mais ensuite, surtout, et voici l'autre idée, elle est destinée à quoi? Elle est destinée au fait que, alors, à ce moment-là, on pourra louer Dieu comme il le faut, comme il convient. Autrement dit, la délivrance est faite pour. La délivrance est faite pour que, enfin, un peuple complètement sacré, complètement purifié et revenu sur sa terre et dans sa liberté, puisse enfin louer Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire d'Israël est destinée seulement qu'à un certain moment, on loue Dieu de plus en plus? Fallait-il prendre au pied de la lettre à ce point l'idée de serviteur de Dieu? Cela pose question tout de même. Cela pose question pour nous du XXe siècle. Parce que, petite parenthèse, je n'ai pas besoin de dire que les contenus moraux que nous connaissons bien, les contenus traditionnels moraux que nous connaissons bien, l'appel à la justice, à l'équité, la défense du faible, tout cela existe chez les prophètes, nous le savons tellement que pour nous, entre nous, c'est pas la peine d'y insister. Puis nous savons très bien aussi qu'à la même époque, les nations autour font des sacrifices d'enfants, des massacres, et sont encore des barbares, sont tous des barbares, évidemment. Nous le savons. Donc nous comprenons très bien. Nous n'accusons pas. C'est pour ça que je vous demandais votre patience tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'accuser, de dire « ça n'est que cela, nos textes ». Non, c'est cela aussi et il fallait. C'est cela aussi et il fallait. Mais nous sommes maintenant. Et la question revient. Est-ce qu'on ne peut pas extraire le noyau lumineux de tous ces textes et le fonder autrement? Nous, juifs, est-ce qu'on n'a pas un nouveau travail à faire? Et puis d'ailleurs, là je vais aller un peu plus vite, il y a une autre remarque, mais je l'évoquerai en une phrase. Nous avons dit que le sacré repose sur des textes, j'ai dit le sacré, c'est le caractère sacré du lecteur. Et finalement, tout repose sur ce que j'appellerais un malentendu scripturaire. C'est le lecteur qui attribue au texte un caractère sacré, bien, on en a parlé, mais d'autre part, parlant de ces textes ne sont pas écrits par un auteur, ils sont écrits par 1000 auteurs. Il y a 4 manuscrits, vous le savez, il y a 4 textes dans, par exemple, Bereshit, par exemple, ce qu'on appelle la Genèse, ce qu'on appelle... tous les textes que vous connaissez. Pour certains, on ne sait même pas s'ils sont vraiment les auteurs. On ne sait pas qui sont les prophètes qui ont un nom, qui sont les personnes qui sont derrière les noms qu'on nous donne. On ne sait pas qui a écrit les textes attribués à qui a écrit, je ne sais pas, la sagesse de Salomon, les proverbes de Salomon. Ce n'est pas Salomon, évidemment. C'est un hommage à Salomon. Mais qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs de ces textes écrits par des juifs à Alexandrie, au 1er siècle par exemple, au 2e siècle, qui sont les vrais auteurs de ces textes signés de noms de philosophes grecs? Il y a des textes qui circulent, des textes très courts, qui sont signés de noms de philosophes grecs, qui sont écrits par des juifs, et on voit dans le contenu du texte que c'est destiné à faire l'éloge et la diffusion de la Torah. Qui sont les auteurs? Et il en va de même pour tous les textes. En réalité, nous sommes devant en présence tous ces textes, ce qu'on appelle la Bible. En réalité, c'est un trésor littéraire et de civilisation unique au monde. Mais ce n'est pas ce qu'on en dit. Ce n'est peut-être pas ce qu'on en dit. Ce n'est peut-être pas la voix de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a écrit ce qu'on dit qu'il a écrit. C'est le peuple juif, sont les juifs. À cette époque, il n'importait pas de savoir qui a écrit quoi. Et c'était mieux, c'était très bien. Mais qu'on ne dise pas que c'est un tel si c'est pas un tel. Alors, les textes ne sont qu'un puzzle, c'est un trésor, c'est la bibliothèque juive, la Torah, c'est la bibliothèque juive. Il a fallu 1000 ans pour écrire tout cela. Le Coran a été écrit en une génération. Voilà pourquoi le Coran est pauvre et unique. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de différents textes, il n'y a pas différents manuscrits, il n'y a pas différentes perspectives. Il y a une génération, quelques individus, ils écrivent le Coran, c'est terminé. Tandis que là, c'est le peuple juif tout entier. Oh, je me demande même si, en faisant des écritures ce qu'elles ne sont pas, on leur rend un vrai hommage. Nous allons maintenant chercher, ces remarques faites, après les critiques, je vais essayer d'extraire très rapidement cette fois ce que je vais appeler, je terminerai vers 10 heures, je ne veux pas parler plus d'une heure, 10h, 10h05. Je vais essayer de schématiser ce qu'on pourrait appeler le noyau recevable. Au fond, l'enseignement fort. D'abord, tous ces textes structurent une nation. C'est d'une importance considérable. Ces textes sont les textes fondateurs d'une nation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre texte fondateur qui ait cette valeur. Les nations européennes se réjouissent de retrouver, je ne sais pas, il existe l'acte de baptême de je ne sais plus quel prince slave qui, en l'an 1000, maintenant, là, tout récemment, avant-hier, s'est fait baptiser à Kiev. Et il y a un acte de baptême, et c'est l'origine de la nation slave. Ou bien, si on remonte un tout petit peu plus loin, on trouve vers l'an 421, sauf erreur, un texte, ou bien une bataille faite par un certain barbare Clovis. On trouve quoi? Rien. Des petites chartes, des petits textes, ce sont des archives. Regardons nos textes, mais c'est effarant. Le texte fondateur d'une nation, c'est une doctrine du monde. Je crois qu'on mésestime la Torah en faisant la voix de Dieu. C'est plus que la voix de Dieu. C'est notre création. Et là, au fond, je suis... On peut dire notre création, nous savons bien que ce n'est pas nous, puisque les textes se sont arrêtés à une certaine époque. Mais c'est un peuple, tout de même. Un peuple tenu par... Je citais encore une fois Rosenzweig, il y a de temps en temps une ou deux petites phrases. Rosenzweig, à propos des Juifs, dit ceci. Quand les Juifs disent « nous », ils sous-entendent toujours, ils ont raison, et c'est cela la signification. Ils sous-entendent, ils continuent la phrase, et ils sous-entendent « sommes éternels ». Nous, nous qui sommes éternels, moi j'ajouterais, nous qui sommes éternels et qui avons créé l'éternité, et puis qui avons à la créer encore. Je suis encore plus ambitieux que les plus religieux de tous nos juifs. Parce qu'un juif religieux, il est modeste, il dit, bon, c'est pas tout à fait nous, c'est quand même, il y a l'inspiration, nous, on s'incline, on essaye de faire notre boulot, mais moi je ne suis pas modeste du tout. Je dis, il y a des écrivains qui se sont cassés la tête, qui ont combattu, qui ont fait de la prison. Les prophètes, ils ont tous fait de la prison. Enfin, tous. Quelques-uns ont fait de la prison. Il faut faire de la prison pour être reconnu en pays juif. C'est pas commode d'annoncer le messianisme. Les premiers qui croient pas, c'est les juifs. Ils vous mettent d'abord en prison, ils attendent, ou ils vous sortent ou ils vous sortent pas. Mais en tout cas, ils vous admirent, mais après, à la mort, vous me direz, c'est fréquent. Mais nous, on ne devrait pas avoir le droit parce qu'on n'est pas si nombreux.
D'admiration.
Oui, c'est ça. Alors, premier noyau de sens recevable dans tous ces textes, structuration d'une nation par une langue et une littérature exceptionnelle. Deuxièmement, il y a ce que j'appellerais un sens de l'histoire, mais pas du tout seulement dans l'idée que les textes annoncent le contenu et l'évolution historique. Non. Un sens de l'histoire, je veux dire plutôt un sens de l'historicité, il y a une prise de conscience de l'importance de l'histoire. Mais l'histoire conçue comme œuvre humaine, pas l'histoire conçue comme succession mécanique d'événements. L'histoire conçue comme œuvre humaine, comme visée et perspective. On trouve ça dans les textes. Cela pourra peut-être nous donner à réfléchir. Troisièmement, ce qui est essentiel aussi, ce troisièmement, c'est que on voit bien derrière les contenus historico-nationaux, le contenu historico-national, c'est ceci. Vous avez subi des catastrophes, Jérusalem a été détruite, vous êtes déporté, vous êtes en exil, mais vous reviendrez, vous vous réjouirez, vous pourrez cultiver la vigne et l'olivier. Vous pourrez cultiver la vigne et l'olivier et vous pourrez vous réjouir. Alors, en apparence, c'est simplement matériel. En réalité, si on lit les textes, c'est complète, c'est matériel, entre guillemets, vous comprenez bien. C'est concret, toujours. Mais en même temps, l'intensité poétique de la langue est telle. Ces écrivains sont des poètes et des penseurs si intenses que l'on comprend bien que ce qu'ils décrivent est quelque chose de plus. Je vais prendre un seul exemple, l'idée de maison, l'idée de demeure. On voit dans Isaïe, ce que Isaïe veut, c'est que peu à peu, le peuple puisse vivre dans une demeure sereine ou dans les demeures de la sérénité. Mishkenot Shananim, je crois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fondement matériel, indépendance d'une nation et vie quotidienne, libre et heureuse. Il y a cela, mais en même temps une vibration. Et la vibration, c'est la suivante, et c'est la troisième signification du noyau que j'essaye de décrire, c'est que dans ces textes, il y a la mise en évidence de l'exigence suivante. Il y a à construire, il y a à transformer le monde et à faire de ce monde une demeure pour l'homme. Plus qu'une habitation, plus qu'une grange et une ferme, ou une ville et un village. Une demeure, une maison. Une maison au sens de demeure. Alors ça, nous devrions y tenir beaucoup, parce que... toute la philosophie, la poésie et la philosophie européenne et chrétienne reprennent cette idée. Et on croit vraiment que l'idée de demeure, c'est quelque chose qui appartient à Thérèse d'Avila et à au criminel Heidegger. Parce qu'il parle de demeure, parce que... etc. Mais naturellement, lui ne veut plus savoir qu'il a existé un peuple hébreu, qu'il existe un peuple juif, qu'il existe une langue hébraïque. Thérèse d'Avila, elle voudrait bien ne plus savoir, mais elle sait encore. Elle étudie bien le Cantique des Cantiques. Je veux dire ceci, pourquoi est-ce que nous serions moins attentifs que le christianisme à la vibration existentielle des anciens textes, de nos textes? Qu'est-ce que c'est qu'une demeure de l'être? Que disent les premiers textes? Que dit la Genèse? Il s'agit de créer, de mettre sur pied une maison pour Dieu. Alors si on le prend au premier niveau, bon oui, c'est une maison pour Dieu. Une maison de prière, ou bien la tente, ou une tente bien sûr, des Bédouins. Une tente où on entre, on met une table, des rideaux, c'est bleu, c'est rouge, c'est joli. Et puis comme Moïse, il va voir là de temps en temps Dieu, puis que c'est à heure fixe peut-être, enfin. Bref, ça s'appelle l'attente du rendez-vous. On peut le lire au premier degré, et puis on peut le lire au deuxième degré. C'est tout cela plus autre chose. C'est la sacralisation du monde. Et maintenant, au lieu de sacralisation, dont je fais la critique tout à l'heure, je vais dire c'est l'attribution d'un sens existentiel à tous les gestes de l'homme, d'un sens existentiel et cosmique. Peut-être que les inventeurs de la poésie sont les Hébreux. Peut-être que c'est la langue hébraïque. Alors, quel est maintenant notre problème? Eh bien, c'est ceci. Nous comprenons mieux maintenant, une fois les critiques faites, et une fois notre attention vivement nourrie et attirée par ce que nous avons pu lire de positif dans les textes, nous pouvons nous demander clairement maintenant quels sont les fondements, les justifications et les contenus précis de toutes ces déterminations que nous venons d'extraire, à savoir espérance, responsabilité, justice, joie. Si nous ne nous appuyons plus sur le sacré ou cela qu'on dit sacré, Doit-on s'appuyer sur quelque chose d'autre pour justifier tout cela, ou allons-nous devoir le sacrifier? C'est cela que nous pouvons examiner maintenant. Mais comme nous n'avons pas trop de temps, je ne vais quand même pas m'arrêter pile maintenant à 10h, je vais vous demander 2 minutes et demie, je vais vous faire le schéma de tout ce dont je ne vous parlerai pas. Parce que sinon, si j'avais tout dit, on n'aurait rien compris. Alors j'aime mieux maintenant faire le schéma, au fond, de ce qui est le plus important. Si nous avions le temps, mais si vous voulez, je puis répondre sous forme de question, n'est-ce pas ? J'aurais développé un peu plus précisément, j'aurais repris à la base, j'aurais repris à zéro, j'aurais repris au commencement. Ah, j'ai oublié de vous dire que l'un de mes premiers livres, ça s'appelait « Lumière, commencement, liberté ». J'aurais repris la question du bonheur au commencement. Et j'aurais montré que ce bonheur, avant même que nous le définissions, nous aurons à le définir. Mais j'aurais commencé par montrer que c'est... Il a peut-être plus entendu qu'on ne pense. Alors j'aurais montré que le bonheur, le thème du bonheur, l'expérience du bonheur et la visée du bonheur est le seul critère possible pour une éthique. Tous les autres critères sont récupérables par des ennemis qui se battent. Prenons n'importe quel critère, la pureté, le devoir, le patriotisme. Tous ces critères peuvent être repris par deux ennemis qui se font la guerre. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de critère. Si le critère, c'est le devoir patriotique, ben nos ennemis s'y réfèrent. Et il faut que le critère soit vrai pour tous si on veut s'en tirer. Je dis que le bonheur, mais le bonheur à redéfinir, est le seul qui n'entraîne pas dans des difficultés conflictuelles. Alors, j'aurais commencé, pour expliquer tout cela, j'aurais commencé par étudier, par schématiser les structures, d'abord les structures et les fondements de l'existence, c'est-à-dire la conscience humaine. J'aurais schématisé avec les concepts suivants. D'abord le désir, c'est le désir qui est le fondement de l'individu humain. Le désir au sens large, comme mouvement d'existence, un peu comme l'entend Spinoza, comme mouvement d'existence, mouvement pour effort pour persévérer dans l'existence, pour vivre encore. Toujours et toujours plus, en allant vers la joie. C'est le désir qui est au centre de l'existence. Et le désir est toujours désir de la joie. La deuxième structure de l'existence humaine, c'est la liberté. On est forcément libre. Quand on se sent en servitude, c'est parce que nous sommes des esprits libres qui pouvons juger la servitude, la condamner, comparer entre ce que nous n'avons pas la possibilité de faire et ce que nous voudrions faire. Seul un être libre peut se sentir en servitude et donc lutter pour la liberté, puis se libérer. Troisièmement, j'aurais dit que la réflexion, la raison font partie de l'essence humaine, forcément. Être homme, c'est parler, parler, c'est penser. Penser, c'est forcément être un peu intelligent. Plus qu'un animal, être capable de faire des opérations, de penser du passé immédiat vers le passé prochain, de construire un outil, de construire des choses simples. L'intelligence, le désir et la liberté, ou la réflexion, le désir et la liberté, sont les trois piliers de l'existence humaine. Le quatrième pilier, le dernier mais pas le moindre, c'est autrui. Je le dis en quatrième, j'aurais pu le dire en premier, tout ça est contemporain, c'est en même temps en nous que nous sommes constitués par le désir, la réflexion, la liberté, la relation à autrui. La relation à autrui n'est pas surajoutée à notre nature, elle est notre nature. Ouverture à autrui, réflexion, désir. Alors avec tout cela, comment est-ce qu'on pourrait, et c'est cela que j'aurais essayé de développer, que je ne pourrais pas développer, mais que vous trouverez développé dans mon dernier travail, les actes de la joie, qui consiste à étudier ce que c'est que fonder, ce que c'est que aimer et ce que c'est que agir. Et nous aurions vu là se dessiner une philosophie de la joie, une philosophie de la joie comme fruit de la réflexion. Pas de la joie comme simple satisfaction empirique des besoins et des désirs, non. La joie est la transmutation de tout cela, transmutation de la vie et accès à un niveau d'existence que j'appellerais substantiel, où l'individu est satisfait totalement sans pourtant jamais être arrêté, et où cette satisfaction vient du fait que la réflexion nourrit et structure le désir anime et structure la réflexion, tout cela étant les médiations pour une relation complètement différente aux autres. Et j'aurais pu montrer tout cela en détail. Et comme nous n'avons pas le temps, vous n'entendrez pas tout ce que j'aurais eu à dire sur la splendeur du monde. Ah, mais je suis d'accord. D'accord. Car le monde est une splendeur. Il faut aussi savoir cela. Il y a non seulement désir, réflexion, autrui, volonté de fonder et de justifier ce que nous avons à faire, et puis ensuite, il y a à se réjouir de l'existence. Ne me dites pas, parce que c'est la première chose que je sais moi-même, mais c'est juif tout ça. Bien sûr, comme on m'a dit depuis 50 ans. Bien sûr. Mais nous voulons aller plus loin, ça ne suffit pas de dire « Ah oui, il y a le mot joie dans tel texte. » Bien sûr, c'est de là que tout part. Mais allons plus loin, allons plus loin. Il faut dire que cette espèce de messianisme sans messianisme ou de messianisme laïque que j'essaye de décrire, qui est nourri de judaïsme, il faut dire qu'il opère, ça sera un peu ma conclusion si vous voulez, le choix radical contre le tragique et la mort et pour la joie et la vie. Ce qu'il y a de différent par rapport aux textes anciens, c'est que le fondement, c'est la seule humanité réfléchissante, et que nous sommes capables, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait ce soir que nous n'en sommes pas capables, nous sommes capables d'analyser profondément ce que c'est que fonder, aimer, agir. Trouver une base, c'est-à-dire des valeurs de base et des valeurs comme but. Se rapporter à autrui en l'aimant d'une certaine façon, se rapporter au monde en s'en réjouissant dans la contemplation, dans la jouissance et dans le fait d'être pleinement heureux d'exister, tout cela peut se décrire, s'analyser et se déployer infiniment plus qu'on ne l'a déjà fait. Et nous ne nous bornons pas à évoquer seulement, à dire seulement « la joie est importante ». On doit pouvoir la décrire, on doit pouvoir aussi construire les chemins qui permettent d'y accéder. Bien entendu, cette demeure de l'être, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a là comme un messianisme sans absolu, parce que l'absolu est à construire par nous. Nous avons à construire une demeure de l'être. Bien entendu, elle est construite d'abord par nous, pour nous, mais bien entendu, pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité a à la construire aussi. C'est universel. Mais l'universel ne saurait exister que dans la figure singulière à chaque fois d'un peuple et d'une langue, ouvert sur tous les peuples et toutes les langues, bien entendu, mais d'un individu. De même dans l'amour, dans l'amitié, les individus ne se nient pas les uns les autres quand ils sont en relation, ils s'affirment. De plus en plus, chacun affirme l'autre. Il s'affirme et ne se nie pas. C'est cela la relation de l'universel et du singulier. C'est là-dessus que je conclurai sur l'idée que seul ce qui paraît impossible est intéressant et il n'y a rien qui soit impossible. Et nous n'avons pas à rechercher des choses simples et faciles. Elles ne correspondent pas à notre exigence. Et il faut savoir que notre exigence très extrême, est exactement à la mesure de nos moyens. Et nos moyens, nous les sous-estimons toujours. Voilà.